Rencontre spirituelle aujourd'hui, en ce début de nouvelle saison. C'est une émission spéciale, c'est sur les saints. Pourquoi pas couvrir justement ce problème des saints et ce qu'est la sainteté. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Nous approchons de la 500e émission et je crois qu'il est temps d'essayer de mettre le point sur cette question. Pourquoi des saints? Vous savez que dans de nombreuses autres églises chrétiennes, on ne canonise pas de saints. Hein? Chez nos frères orthodoxes, d'accord. Mais je rencontrais l'autre jour le curé de la cathédrale anglicane de Montréal et je lui demandais, auriez-vous des saints à me proposer depuis le 16e siècle? Vous savez qu'ils se sont séparés de nous en 1532-33. Et il m'a dit que non, il n'y avait personne, il ne canonisait personne, mais je lui ai dit, non, je sais, mais j'aimerais avoir de grands personnages, des hommes qui ont vécu dans l'anglicanisme une vie spirituelle profonde et intense. Et il ne savait pas trop quoi me répondre, je suis resté surpris, et même pantois. Il faut dire qu'ils sont très centrés sur l'essentiel, hein, sur le Christ, sur la Trinité. Et évidemment, chez eux, un peu la Vierge Marie. On peut se demander alors, si nous, avec notre intérêt pour les saints, il n'y aurait pas une façon de se distraire de l'essentiel? Vous verrez, ce n'en est pas le cas. Avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont écrit. Et en particulier, je vais vous lire une belle lettre que j'ai reçue d'une étudiante en droit à l'université. C'est daté du 29 avril. Monsieur Beaugrand-Champagne, je prends la plume aujourd'hui d'abord pour vous remercier. Je suis étudiante en droit à l'université et depuis presque un an et demi, j'écoute Rencontres spirituelles, religieusement, vous me pardonnerez le jeu de mots, presque tous les soirs, lors de la reprise. En plus d'avoir un effet relaxant après le stress quotidien, votre émission m'a également permis de réfléchir et d'apprendre sur une dimension de la vie qui me fut jusqu'à présent inconnu. Je suis issu, en effet, de la petite bourgeoisie intellectuelle qui a toujours pris plaisir à dénigrer toute forme de croyance et de religion, particulièrement la religion catholique. Oh, je ne leur en veux pas. Mais il reste que la seule expérience religieuse que j'ai pu vivre fut mon baptême. Et j'étais manifestement trop jeune pour m'en souvenir. C'est alors que je découvre Rencontres spirituelles un soir, comme ça, par hasard. C'était une émission sur Jean Bosco. Je crois que c'était son nom. Et son grand dévouement pour les enfants. Et depuis, je syntonise Radio Ville-Marie tous les soirs, découvrant, à travers la vie des saints, différents éléments de la foi catholique. Je ne suis pas devenue une croyante pratiquante dévouée au Seigneur pour autant. Mais le cadeau précieux que vous m'avez offert, M. Beaugrand-Champagne, fut de m'amener à désapprendre les idées préconçues qui me furent inculquées dès mon enfance. Cette conception méprisante de la foi catholique. C'est trop beau, je le répète. Le cadeau précieux que vous m'avez offert fut de m'amener à désapprendre les idées préconçues qui me furent inculquées dès mon enfance. Cette conception méprisante de la foi catholique. Faute de pouvoir dire « je crois », je peux au moins dire maintenant « je respecte ». Et qui sait, peut-être que Dieu arrivera à se frayer un chemin jusqu'à moi un jour. Encore une fois, merci. Je garde le nom, même le prénom, de crainte de la mettre dans l'embarras. C'est une des lettres les plus touchantes que j'ai reçues de toute ma vie, et Dieu sait que j'en ai reçu des milliers quand j'étais à Radio-Canada, à faire l'émission Rencontre et bien d'autres émissions. Mais là, je vais vous parler des saints. Dernier temps, on sait que dans l'Église, le nombre des béatifications a augmenté considérablement. Jean-Paul II a canonisé plus de saints que beaucoup d'autres papes ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup plus de saints qu'avant. Ça veut dire qu'on les connaît mieux. C'est vrai, hein? On dispose de beaucoup plus de documents, même à travers le temps et l'espace. Et les médias, les innombrables publications, puis le développement des archives internationales, des ordres et des congrégations religieuses, puis le fait que le monde est devenu un village, quoi. Et ça rend les chrétiens des différents pays et époques, toutes les époques, plus proches de nous. Le monde s'est rapetissé, et on se réjouit de la canonisation de quelqu'un qui a vécu à l'autre bout du monde. Ça semble si peu loin, finalement. Il y a de ces gens, de ces pays qui vivent parmi nous maintenant. Et n'oublions pas que nous vivons dans une société qui décerne des prix dans tous les domaines. Hein. Que de prix, même on voit ça à la télévision, des grandes fêtes, là, des prix scientifiques, des prix sportifs. Que quantité de prix sportifs. Hein. Les prix politiques, tous les prix culturels, ça n'en finit plus. Les prix littéraires, les prix artistiques. Hein. Or, nous imaginons parfois qu'un saint est un chrétien qu'on élève sur les autels comme on fait monter un athlète sur un podium, d'où il va brandir son trophée, comme dit le cardinal Danils. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas loin, finalement, de la querelle des apôtres. Hein? C'est dans Luc, au chapitre 22, sur celui d'entre eux qui leur semblait le plus grand et se disputait là-dessus. Avoir à la mémoire que l'honneur des saints, faut toujours avoir à la mémoire. Hein? Que l'honneur que l'on donne à un saint, c'est à Dieu qu'on le donne, c'est à Dieu qu'on le donne, c'est à Dieu qu'on le donne. Les saints servent à la gloire de Dieu. Si l'Église nous les propose comme des modèles de radicalité, radicale, pas des mi-chair, mi-poisson, pas des tièdes, les saints, ce sont des radicaux. Dans le bon sens du terme, des radicaux de l'amour. Hein? Ils sont pas casse-pieds. Ils sont radicaux dans l'amour, et c'est pour nous rendre l'Évangile plus proche que l'Église nous les propose. Et pour nous faire que la suite du Christ, suivre le Christ, ça soit bien plus attirant, puis que le désir de l'imiter devienne beaucoup plus contagieux. Hein? C'est l'abbé Cadoret qui m'a envoyé ce mot d'Henri Suzeau, « Faire connaître les saints, c'est leur préparer des imitateurs ». C'est leur préparer des imitateurs. C'est pour nous dire, ils l'ont fait, mais faites-le donc vous aussi. S'ils l'ont fait, on peut le faire. D'ailleurs, l'honneur que nous donnons, mettons, à Marie, la Sainte Vierge, c'est exemplaire. Hein? Chaque fois que l'on s'adresse à elle pour la louer, ou pour l'implorer, qu'est-ce qu'elle fait? On l'a dans la liturgie, là, dans les textes. Elle dévie la conversation sur les œuvres de Dieu. Hein? Souvenez-vous, qu'est-ce qu'elle fait dire? Elle dit, « Le Seigneur fit pour moi des merveilles. » Oui. C'est le Seigneur qui fait les merveilles dans les saints. Ils ont le courage et la volonté de collaborer, de prendre la main de Dieu, si on peut dire, puis d'avancer. La Sainte Vierge, elle dit, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et le culte des saints est toujours orienté vers Dieu. C'est vers Dieu, c'est pas vers eux-mêmes. Ils ne cherchent pas leur gloriole, pas du tout. Hein. Et c'est ce qu'ils veulent de nous. Que notre culte, à leur égard, s'oriente vers Dieu. Tandis que notre regard, souvent désorienté, risque de se fixer sur le saint. C'est la déformation du culte des saints dans l'Église auprès de certaines personnes qui ont un culte intempestif pour Saint-Jude ou Saint-Rita ou des Saint-Antoine, des choses comme ça. Mais c'est pas parce qu'il y a des erreurs que l'essentiel n'est pas bon. C'est pas parce qu'il y a de mauvais violonistes que l'instrument n'est pas bon et que les violonistes ne doivent pas jouer de violon. À l'origine, le culte des saints est une variante, on peut dire, de la mémoire des défunts, il y a 2000 ans là, presque. Mais au lieu de rassembler la famille dans le deuil, on rassemble la paroisse, l'église locale, pour admirer l'œuvre que Dieu a réalisée dans ses saints. Ils font partie de la foule immense de témoins qui se tient debout devant le trône de l'agneau. Le culte des saints, c'est une conséquence. Une conséquence de quoi? De l'incarnation de la grâce. Dieu a pris corps dans notre histoire, là, il y a 2000 ans. Il a revêtu notre humanité. Il nous a sanctifié corps et âme, et ce réalisme catholique diffère de la conception protestante de la parole pure et de la justification. Selon cette perception, Dieu nous regarde comme juste dans le Christ, mais nous restons pécheurs. Dans la théologie catholique, le mystère de l'incarnation a pour conséquence que la grâce transforme profondément la nature humaine et renouvelle tout l'être ontologiquement. C'est comme ça qu'ils sont les saints. Nous ne sommes pas tenus pour sanctifier, nous le sommes réellement, ce n'est pas pareil. Nos saints catholiques sont transformés, et cette densité charnelle du catholicisme ne va pas sans risque de dérapage d'ailleurs, hein? C'est le cardinal Danis qui dit que la foi court le danger d'être engloutie dans la matière, dans l'épaisseur humaine et dans le réalisme des représentations, de sorte que l'on est tenté de mettre la main sur Dieu, comme le dit toujours ce cardinal, hein? On ne met pas la main sur Dieu, et n'oublions jamais que si l'on admire l'héroïsme des saints, ce n'est pas pour fixer notre regard sur eux. Comme quand on admire les qualités des champions, là, c'est seulement pour contempler le travail de la grâce, librement accepté, et pour que Dieu soit glorifié dans ses œuvres. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. On chante ça à la messe, hein? Oh, comme j'aimais enfant ce cri devant le Saint-Sacrement. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Dans un beau livre de Louis Lavelle, Quatre saints, paru chez Albin Michel, mais heureusement ça vient d'être republié chez Christian de Bartilla. Quatre saints de Louis Lavelle, L-A-V-E-2-L-E, une préface de Jacques de Bourbon-Busset que vous aviez pu voir à l'émission Rencontre à la télévision. Dans son introduction à ces quatre saints, qui sont des grands saints, il n'a pas choisi n'importe qui, c'est Saint François d'Assise, Saint Jean de la Croix, Saint Thérèse d'Avila, Saint François de Sales. Eh bien, il dit à un moment donné, le propre de la sainteté, c'est d'être naturellement invisible, comme le monde spirituel dans lequel elle nous propose d'entrer. La sainteté du mendiant et du roi n'est pas aisé à discerner sous les traits du mendiant et du roi, car elle est inséparable d'une attitude tout intérieure que nous lui prêtons et qui trouve en nous un mystérieux écho. Hein? Alors, le mendiant et le roi ressemblent au saint inconnu que nous côtoyons tous les jours sans qu'aucune marque nous le fasse reconnaître. Vous savez, je vous ai déjà parlé, un mendiant, de Saint Joseph Benoît Labre. Sa sainteté était là, cachée. Et le roi Baudouin, dont je vous ai parlé, de Belgique, là, qui est mort il y a quelques années à peine, elle était probablement assez cachée et discrètement en lui. C'était un saint. Car le saint peut être un savant, peut-être un théologien, oui, un fondateur d'ordre. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'il est un saint, dit Louis Lavelle. Bien que la sainteté trouve une expression dans toutes les œuvres qu'il réalise, comme elle en trouvait dans la manière de gouverner ou de tendre la main, car le saint peut être cet homme ordinaire qui semble absorbé par les besoins les plus simples, à la fois solitaire et ouvert à tous, dont la vie extérieure paraît se réduire à quelques habitudes et dont nous surprenons parfois, ou bien un simple geste, le plus familier et le plus inattendu, et qui pourtant résout comme si tout allait de soi une situation que l'on regardait jusque-là comme inextricable, ou bien un sourire profond et lumineux qui, sans rien changer à l'état des choses, change pourtant l'atmosphère où nous les voyons. Le saint fait pour nous de la vie un miracle perpétuel, mais qui, sans bouleverser en rien l'ordre naturel, se découvre à nous, à travers cet ordre même, par une sorte de transparence. Le saint a une sorte de transparence. Il faut apprendre à reconnaître les saints qui sont à côté de nous, et le saint même, qui est en nous, peut-être, qui demande à naître en nous, et que nous refusons de laisser sortir des limbes. Le plus humble mouvement d'amour le montre tout près de paraître à la lumière, en nous comme en autrui, mais ce mouvement, nous sommes incapables de lui donner aucune continuité, de l'affermir en nous, de rejeter dans l'ombre ce qui le contredit et où nous mettons notre intérêt le plus essentiel et notre unique point d'honneur. Et plus loin, il dit que c'est le courage qui fait les saints. Puis plus loin, il dit encore, celui qui a le plus de volonté, c'est peut-être ça aussi. Mais il dit, c'est peut-être aussi celui qui a le moins de volonté, car la volonté est toujours inséparable de l'amour de soi. Elle cherche toujours la conquête et le triomphe. Or, dans la sainteté, la volonté, pour ainsi dire, s'efface. Et qu'est-ce qui arrive quand la volonté s'efface chez le saint? Elle laisse la place en elle à une action qui la surpasse infiniment, mais qui la soulève, à laquelle il s'agit seulement pour elle d'être docile. Elle laisse place à l'amour. À l'amour. C'est ça qu'on retrouve chez Sainte-Thérèse l'Enfant Jésus, dont il sera beaucoup question dans les mois qui viennent. Laisser place à l'amour. Tout donner à l'amour. Dans un beau texte du Père René Latourelle, avec lequel j'ai eu la chance de passer 3 jours au lac Nemuninque chez les Jésuites cet été, c'était ma petite vacance, 3 jours de vacances, c'est tout ce que j'ai pris. Le restant du temps, j'ai préparé mes émissions. 200 émissions, ça se prépare. Et il dit, pourquoi des saints et des saintes dans l'Église? Or, il dit que la sainteté dans l'Église n'est pas une chose louable et souhaitable seulement. Elle est une nécessité même du christianisme. Le synode de 1985, dans une rétrospective sur Vatican II, sur le Concile Vatican II, a souligné à ce propos ce qui suit. C'est très beau, ça. Un texte du synode de 85. À travers toute l'histoire de l'Église, les saints et les saintes ont toujours été source et origine de renouvellement dans les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, nous avons grand besoin d'avoir des saints. Et sans nous lasser, nous devons en demander à Dieu. Et le synode ajoutait que le surgissement de la sainteté serait le véritable test de la fécondité du Concile. Davantage, il faut affirmer que le témoignage des saints, c'est-à-dire d'une vie en parfait accord avec l'Évangile, est une exigence absolue du christianisme lui-même. C'est une nécessité, il dit, de nature. Bon, bien, il a raison. Et puis, il dit cela pour plusieurs motifs. Voici les motifs selon le père René Latourelle, jésuite, n'est-ce pas, qui a été responsable de la Grégorienne à Rome, la grande université jésuite à Rome. Un Québécois, oui, grand, grand, grand jésuite. Et quel homme simple, et direct, et vrai. Voici ce qu'il dit. Tout d'abord, parce que le christianisme n'est pas un système de pensée. C'est pas une idéologie, un enseignement qui n'enseignerait ni le prédicateur, ni l'auditeur. Mais c'est un message de salut, rattaché à un événement qui a changé le sens de la condition humaine. C'est pas des farces, hein? C'est rattaché à un événement, Jésus, qui a changé le sens de la condition humaine. L'Évangile nous dit en effet que l'homme, en Jésus-Christ, est sauvé, c'est-à-dire libéré. Il est arraché à lui-même pour devenir quelqu'un, un homme véritable. Pas une nouille qui se traîne dans le désespoir, le péché, l'angoisse, les tourments, etc. Non. Libéré, sauvé, c'est ça que ça veut dire, sauvé. Hein? Donc l'Évangile nous dit en effet que l'homme en Jésus-Christ est sauvé, que nous sommes enfants de Dieu. Ah, enfants de Dieu. Comprenons-nous la beauté du sens de ces 3 mots, enfants de Dieu. Et que déjà nous participons à la vie des personnes divines. La Trinité est en nous, vivante. Et cet amour qui jaillit du cœur de Dieu pour le cœur de son Fils. Et qui est cet amour qui est une personne et l'Esprit Saint sont vivants en nous. Dieu est vivant. Il en résulte aussitôt, dit le Père Latourelle, que si le christianisme est incapable de démontrer que le salut annoncé est arrivé, que l'Esprit a été vraiment donné, il avoue son échec. Entendez-vous ça? Il ne suffit pas de prétendre que le salut est arrivé, mais qu'il est insaisissable, que la sainteté est donnée, mais que, paradoxalement, rien ne la trahit au dehors. S'il en est ainsi, la prétention du christianisme est vaine. Si la sainteté doit exister, et de fait elle existe, on doit, il me semble, pouvoir la rencontrer puis la discerner. Délicatement, dans ses fruits, comme dit saint Paul, les fruits de charité, de joie, de paix, de serviabilité, de bonté, de confiance, de douceur, de maîtrise de soi. C'est saint Paul dans l'Épître aux Galates qui dit ça. Et de même, l'Église catholique ne peut se contenter d'affirmer qu'elle est sainte et qu'elle a reçu du Christ les moyens de sanctifier les hommes, sans pouvoir toutefois les sanctifier. La vérité est que plus l'Église parle de sainteté, là, plus elle doit produire des témoins du salut. J'espère que dans la télévision la semaine dernière, quand vous avez vu ces foules à Paris, vous avez vu des foules de saints ou de futurs saints. Je l'espère. Des jeunes gens qui seront libérés pour la vie et qui produiront des fruits de bonté, de tendresse, de paix, de dévouement. Plus l'Église raconte l'histoire du salut en Jésus-Christ, plus elle doit raconter les victoires de la grâce et du salut sur le péché des hommes. Libérer les gens du péché. Tel est le sens profond des béatifications puis des canonisations. L'Église perd toute crédibilité si elle ne produit pas de fruits de salut. C'est-à-dire quoi? Des saints et des saintes. Et c'est pour ça qu'il y a à Radio Inari une émission qui s'appelle Rencontre spirituelle, rencontre avec des saints et des saintes. Et en deuxième lieu, bien, la présence des saints et des saintes est nécessaire parce que l'essentiel du message chrétien, c'est quoi? C'est la révélation de l'amour infini de Dieu pour les hommes à travers l'amour du Christ. Or, comment les hommes qui ne connaissent pas Jésus-Christ peuvent-ils croire à son amour s'ils n'ont pas sous les yeux le spectacle d'hommes et de femmes comme nous, qui ont été eux-mêmes conquis par cet amour et qui ont risqué pour lui le tout de leur vie? On ne peut introduire l'amour d'une personne si ce n'est par une contagion d'amour. Et lorsque les chrétiens mènent une vie en accord avec l'Évangile, lorsqu'ils proposent l'Évangile visible en des êtres de chair comme nous, alors, ceux qui sont témoins de ce spectacle contemplent quoi? Ils contemplent Dieu qui est aimé et Dieu qui les aime. L'amour de Dieu est là, debout devant eux. Oui, l'amour de Dieu est debout devant eux dans les saints. Et cet amour des hommes et des femmes entre eux devient alors le sacrement ou le signe de l'amour de Dieu pour les hommes, comme le dit si bien le Père Latourelle. J'ai sous les yeux ce beau texte du cardinal de Lubac que j'ai eu la chance de connaître à Paris. L'élan mystique n'est pas un luxe. J'aime bien ça. L'élan mystique n'est pas un luxe. Sans lui, la vie morale risque de n'être qu'un refoulement. L'ascèse, ou si vous voulez la pénitence ou la pratique de certaines choses, une sécheresse. La docilité, un peu d'obéissance, un sommeil. La pratique religieuse, une routine. Alors que la pratique religieuse devient une routine quand il n'y a pas d'élan mystique. Quand on se rend à la messe sans élan mystique, qu'est-ce qu'il y a? Rien. On s'assoit, on se met debout, on regarde l'heure, on attend que ça finisse et on s'en va. Pour un élan mystique qui nous fasse soulever le cœur devant les paroles sublimes de la Sainte Liturgie. Parce que l'accord entre l'Évangile et la vie que les saints visibilisent, on peut dire, est également nécessaire. Parce que, vous savez, le christianisme, c'est la révélation d'un nouveau style de vie, c'est que c'est pas la même chose. Être chrétien, c'est pas être comme les autres. Ce style de vie des chrétiens, quelque chose de sublime, c'est quelque chose d'inédit. Il suffit de penser au pardon des ennemis. Je recevais hier un appel d'un chrétien très convaincu qui me disait qu'il ne pouvait pas pardonner à quelqu'un parce qu'elle l'avait offensé. Ben, j'ai dit, mais pardonnez-lui. Mais je ne peux pas lui pardonner, elle ne m'a pas demandé pardon. J'ai dit, alors, si vous faites gifler sur une joue, vous êtes supposé présenter l'autre joue. Mais vous la présentez, vous, simplement en disant, demandez-moi pardon de m'avoir giflé sur la joue droite et je vous présenterai ma joue gauche. Et le Christ dit de pardonner 70 fois 7 fois. Ça veut dire qu'à 70 fois 7 fois, il faut toujours demander à l'autre, demandez-moi pardon, je vous pardonnerai. 70 fois 7 fois, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est pas ça du tout. Le style de vie du chrétien a ça de sublime et d'inédit, c'est de penser que toujours un chrétien pardonne. Pensons à nos frères coptes, à nos frères des pays où ils sont persécutés depuis 1000 ans et plus. Comment donner quelque idée sinon par une présentation concrète, par un exemple vivant, un simple discours sur la vie de fils de Dieu serait inévitablement voué à l'échec. C'est pourquoi le Christ, le témoin par excellence, est non seulement celui qui révèle aux hommes et aux femmes leurs conditions filiales, mais encore celui qui les initie à cette vie de fils, en menant lui-même une vie de fils. C'est pourquoi aussi il faut des témoins du Christ, des saints, des saintes, qui perpétuent dans l'Église cette vie de fils et de fille de Dieu révélée puis vécue par le Christ. Il faut des saints, il en faut beaucoup. Le Québec devrait être couvert de saints et de saintes, et nous changerions tout. Ce serait un nouveau style de vie. Si l'existence chrétienne pleinement vécue, nous avons besoin de voir aujourd'hui que la transformation de l'humanité, annoncée par notre Seigneur Jésus-Christ et opérée par l'Esprit, c'est vraiment arrivé. Il faudrait que ce soit arrivé. Et ça l'est beaucoup plus qu'on pense. Je vois souvent des gens très simples qui sont des saints, des prêtres qui sont des saints, des sœurs, des mères de famille, et même des enfants. Des enfants. Les saints et les saintes sont également nécessaires pour illustrer l'insondable richesse de ce mystère du Christ dont parle saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens. Comment en effet mesurer la largeur, souvenez cette beauté, la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour du Christ, Comment embrasser, par exemple, d'un seul coup d'œil, par une seule approche, la splendeur d'une cathédrale, Aucune ne parviendra à en condenser la beauté du Christ. Il faut multiplier les gros plans pour essayer de recomposer la splendeur de l'ensemble d'une cathédrale. Et pour comprendre le Christ, bien à plus forte raison, comment une seule existence pourrait-elle épuiser le mystère du Christ? Il nous faut la sainteté aux multiples visages de la vie des saints pour soupçonner sans jamais l'atteindre l'infinie grandeur de Dieu. Sans le dévouement jusqu'à l'épuisement de Saint-Pierre Claver pour les noirs et les lépreux, de Saint-Vincent de Paul pour les pauvres, de Saint-Jean de Brébeuf pour les hurons, sans la pureté de Saint-Stanislas Kostka qui donne le vertige, sans le zèle délirant de Saint-Paul et de Saint-François-Xavier pour le salut des âmes, sans la pauvreté de Saint-François et de Saint-Clair d'Assise, jusqu'au plus total dénuement, sans l'humilité et l'effacement de Saint-Joseph et du frère André, sans la tendresse de Mère Teresa qu'on a pu voir hier à la télévision, puisqu'elle était une amie de la princesse qui est décédée tragiquement, princesse Diana. Elle, Mère Teresa, qui a une telle tendresse pour les déchets de l'humanité, et qui me brisait le cœur de son dévouement. Comment pourrions-nous comprendre quelque chose à l'amour, au zèle, à la pureté, à la pauvreté, à l'anéantissement, à la tendresse du Christ pour nous? Nous n'arriverons jamais à épuiser le mystère du Christ infini dans toutes ses dimensions, mais la vie des saints et des saintes reproduit comme en miniature, un à un, tous les traits de la personne du Christ. Ils sont comme des rayons qui viennent du soleil, qui partent du cœur brûlant de Dieu. Présent au monde qui l'entoure, le saint nous semble venir d'un autre monde et d'en rapporter un air plus pur. Il nous en fait pressentir la mystérieuse grandeur. Le Père Latourelle dit que, qu'en cinquième lieu, il faut dire aux hommes, en quête de sens, ou à la recherche du sens perdu, les saints et les saintes découvrent une plénitude de sens inépuisable. Dans les ténèbres du non-sens, vous savez, on est dans un monde de non-sens, où on tue les enfants par millions avant qu'ils ne naissent, où l'on se déteste, où les paparazzis font des crimes insensés, trafiquant de drogue qui passe 1 an, 2 ans en prison pour recommencer aussitôt. Où nos enfants grandissent en apprenant comment se préserver de ci et de ça avec des condoms dès l'âge de 9 ans comme mon petit-fils. Où on enseigne n'importe quoi dans les ténèbres du non-sens. Où témoin du Christ le Saint apparaît comme celui qui a trouvé un sens à la vie. Il sait qui il est, ce qu'il fait et où il va. Il a trouvé dans le Christ la source d'un dépassement et d'un achèvement qui font contraste avec toutes les idéologies ridicules et toutes les attitudes narcissiques de l'homme contemporain où l'homme se contemple le nombril, son moi et son importance. Le Christ apparaît comme le seul médiateur de sens, le seul exégète de l'homme et de ses problèmes. Mon message est mystérieux, mais source de sens intarissable, toujours jaillissante, car le Christ n'est pas seulement irruption de Dieu dans l'histoire de l'homme. Le Christ, il est irruption massive de sens. Oui, le sens de l'homme, qu'il le sache ou non, puis le sens de la femme aussi, c'est que l'amour de Dieu le couvre, ou la couvre. C'est que l'homme est aimé, sauvé par le Père dans le Christ et l'Esprit. La clé du mystère de l'homme et de la femme, c'est que Dieu, en Jésus-Christ, veut réengendrer en chaque homme, en chaque femme, un fils, une fille, et leur inspirer, leur insuffler son esprit d'amour, qui est un esprit filial. Le sens de l'homme et de la femme, c'est qu'ils sont appelés à l'amour avec un A majuscule. Mes saints et les saintes sont aussi les prophètes du Nouveau Testament, choisis par Dieu pour aider l'Église à se réformer. Bon, le Concile l'a répété avec force, hein, l'Église a constamment besoin de se purifier, de se renouveler. Or, l'histoire montre aussi que s'il est vrai que le renouvellement des structures ou la création de structures plus adéquates sont de grande importance pour que l'Église ne cesse de marcher au rythme de chaque époque, il est encore bien plus vrai que l'essentiel, ce qui compte dans la réforme, là, réside dans quoi? Dans la conversion des mentalités. On a un synode à Montréal. Si on convertit pas les mentalités, on perd son temps. Il faut convertir nos cœurs. Et la conversion des cultures passe par la conversion des personnes. On convertit pas une culture sans convertir les personnes. C'est pas parce qu'on va écrire de meilleurs livres et qu'on dira de meilleurs sermons et qu'on fera de meilleures émissions à Radio Ville-Marie et qu'on dira tout ce que je dis si nos cœurs sont pas changés. Si mon cœur ne change pas, si je me contente de parler et de ne rien faire, c'est du vent. Vous vous plaignez que ça va mal? Devenez des saints. Devenons des saints, convertissons-nous. Priez pour moi, je prierai pour vous. Les vrais réformateurs sont ceux qui ont donné à l'Église la seule chose dont elle ait vraiment besoin, des saints et des saintes. Et de fait, les grandes réformes de l'Église viennent de l'intérieur, des membres du peuple de Dieu suscités par l'Esprit Saint. Dans les moments les plus désespérés de l'histoire, l'Esprit a fait jaillir la sainteté et le type de sainteté qui répondait aux besoins particuliers de chaque époque. Pensez à Saint Bernard au 12e siècle, Saint François, Saint Clair, Saint Dominique au 13e siècle, Saint Ignace de Loyola, dont je vais vous parler bientôt, puis Saint Charles Borromée, puis Saint Thérèse d'Avila au 16e siècle, puis Saint François de Sales, Saint Vincent de Paul, Saint Jean Eudes. Au 17e siècle, Saint Jean Bosco, dont la jeune femme parlait au début de l'émission dans sa belle lettre, cette jeune étudiante. Saint Jean-Marie Vianney, dont je vais vous parler aussi à la fin de la saison, au 19e siècle, puis le frère André. Puis Jean 23, dont je vais vous parler aussi, et Mère Teresa. Oh. L'Église est essentiellement un peuple de pèlerins. C'est une grande caravane, hein? Elle chemine à travers les siècles. L'Église porte constamment son regard vers l'horizon qui débouche où? Sur le royaume définitif, où Dieu nous attend. Mais Dieu est au fond de nous. L'Église est en transit. Mais précisément, parce que nous sommes en route, comme un train engagé dans un tunnel obscur, nous voulons savoir ce qu'il y a au bout du tunnel. Est-il vrai que notre voyage a une destination qui sera le bonheur? Et la vie pour l'éternité. Et c'est ici qu'interviennent les saints, ceux qui ont achevé le voyage et qui savent, eux, hein? Vous savez qu'il y a un dogme dans l'Église qu'on appelle le dogme de la communion des saints. Nous sommes tous en communion. Ceux qui sont au ciel, ceux qui sont au purgatoire, ceux qui sont ici-bas, sommes en communion. Mais le dogme de la communion des saints nous assure que tous ceux qui vivent dans la sainteté achevée du paradis, ou dans la sainteté de purification des défunts au purgatoire, ou dans la sainteté en mûrissement et en devenir, qu'est la nôtre dans nos cuisines, dans nos petits salons, dans nos petits boudoirs, dans nos lits d'hôpitaux, sont tous participants des moyens de sainteté et de croissance déposés dans l'Église. Bien plus, il y a solidarité vitale et mystérieuse, un mystérieux échange à l'intérieur de cette communauté des saints que nous formons tous, hein, le Christ et ses membres saints, où qu'ils soient, communient entre eux. Ainsi, les contemplatifs et les souffrants, les malades, les handicapés, les abandonnés, les désespérés et tous les autres qui couvrent la terre, représentent l'énergie spirituelle la plus dense du corps mystique. Par leurs prières et leurs souffrances, ils emportent l'humanité vers les cieux nouveaux. Puis d'autre part, ben, les saints, les martyrs, là, déjà parvenus au terme, au royaume dans le ciel, là, attestent de leur influence auprès de Dieu, par les faveurs obtenues grâce à leur intercession, que les promesses du bonheur attendues sont autre chose que de vaines paroles. Oui, ils sont la preuve, eux, pour nous faire endurer un ici-bas plus proche de l'enfer que du ciel. Oui, quand on invoque les saints, ils nous répondent. Combien de fois on peut même invoquer des saints tout près de nous? Je ne sais pas si mon fils décédé il y a quelques années est un saint, mais souvent je l'invoque et j'obtiens. C'est mystérieux. Je sais que c'est par la grâce de Dieu, et c'est Dieu qui me répond. Dieu répond par les saints. Il répond surtout pour nous rendre meilleurs, pour nous rendre plus libres, pour nous rendre plus joyeux. C'est Monseigneur Elder Camara qui disait « Je prie pour vous parce que je suis absolument convaincu que pour aider la marche de l'Évangile, pour évangéliser, nous avons besoin de sainteté. » Le monde a besoin de beaucoup de choses, mais il me semble que son besoin numéro un, c'est vraiment d'avoir des saints, des saintes. C'est vrai que seul le Seigneur est saint, d'une sainteté absolue, parfaite, mais une sainteté participée, cela n'est pas un privilège, c'est une obligation. Monseigneur Camara, et vous voulez savoir ce qu'il faut faire? C'est dans la messe d'aujourd'hui à l'antienne de communion. Quand vous irez communier aujourd'hui, si vous allez à la messe, là, méditez ce texte en communion. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur, Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père, évidemment dans l'unité de l'Esprit-Saint. Dans un petit article intéressant sur la sainteté, intitulé « Vous pouvez, vous aussi, être un saint », ça commence comme ça et j'aime beaucoup ça. « Il y a tellement de bonté dans la plupart des gens que je suis tenté de dire « Mais vous êtes un saint, vous ne le savez pas. » Cette remarque produit toujours un regard embarrassé et un démenti très vif. On ne se voit pas comme un saint, surtout quand on l'est en réalité. Léon Blois a écrit « La plus grande tristesse est de n'être pas saint ». Il avait raison, mais ce genre de tristesse n'est pas une mauvaise chose. On peut vivre avec elle et même la mettre à notre profit, pensez-y. Quand vous êtes triste d'avoir désappointé Dieu, c'est un signe que vous l'aimez. Quand vous êtes triste d'avoir désappointé Dieu, c'est un signe que vous l'aimez. C'est une sainte tristesse qui peut purifier votre âme. Elle conduit à un désir passionné d'être plus intimement uni à votre Créateur. En somme, il ne suffit pas de parler des saints et de leur présence nécessaire dans l'Église. Il faut ajouter aussitôt, à qui s'adresse la sainteté? Où sont les saints? Le fait qu'en dans le passé, les saints canonisés aient été surtout des prêtres, des évêques, des papes, des moines, des clercs, ou des religieux, des religieuses, à accréditer la conviction chez bien des laïcs que la sainteté était le privilège d'une élite dont les laïcs, nous serions exclus. Si nous avions des doutes là-dessus, sur une question des candidats à la sainteté, rappelons que lors du Concile Vatican II, la condition sur l'Église, consacre un chapitre entier, le cinquième, à l'appel universel à la sainteté. C'est dans le Concile, ça. Observons toutefois un glissement de vocabulaire de Vatican I à Vatican II. Celui-ci, le Vatican II, a utilisé la catégorie du témoignage, du témoin de l'Évangile ou du Christ, plutôt que la catégorie de la sainteté. Mais une fois perçue cette transposition de sainteté à témoin, nous constatons que le thème du témoignage est un des thèmes privilégiés de Vatican II. Et aux yeux du Concile, témoigner signifie quoi? Que ça veut dire, ça témoigner? Mais ça veut dire accréditer l'Évangile comme vérité. Proclamer que l'Évangile dit vrai. Puis que notre salut, notre liberté, notre joie, notre bonheur à tout homme et à toute femme, ça ne peut survenir que par une vie conforme à l'Évangile. Il ne s'agit pas de prendre des morceaux d'Évangile, puis de réduire l'Évangile de moitié, d'écouter ce qu'enseigne l'Église et de n'en prendre que la moitié, ou tout prendre pour être libre. C'est le peuple de Dieu tout entier qui doit témoigner du Christ. C'est pas rien pour les laïcs, hein, c'est pour les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses, sans doute aussi. Mais aussi tous les laïcs, hein. Chacun doit être devant le monde le témoin de la résurrection et de la vie du Seigneur Jésus. On doit être des signes du Dieu vivant. Tous les chrétiens, partout où ils vivent, sont tenus de manifester par l'exemple de leur vie, puis le témoignage de leur parole, l'homme nouveau, la femme nouvelle qu'ils ont revêtu par le baptême et la force du Saint-Esprit. C'est une vie d'unité, de charité des chrétiens. C'est le témoignage de leur vie engagée. C'est dire de leur vie de fils et de filles, de créatures nouvelles, transformées, vivifiées par l'Esprit. C'est ça, dans le synode de 1987, suivi de l'exhortation sur les laïcs en 88, belle exhortation sur les laïcs, là, est encore plus explicite, écoutez bien cela, hein, unis au Christ et constitués témoins du Christ ressuscité, les fidèles laïcs là, sont appelés à quoi? À faire briller la nouveauté et la force de l'Évangile dans leur vie quotidienne, familiale et sociale. On n'a pas le droit de se taire, il faut la proclamer. Hein. Ils sont invités, les laïcs, à porter ce témoignage jusqu'au cime de la sainteté, car le saint est le témoignage le plus éclatant de la dignité conférée aux disciples du Christ. Et ça, c'est beau. Tous, sans exception, nous sommes appelés à la sainteté, quelle que soit notre condition. On voudrait se construire soi-même sa petite sainteté silencieuse. L'essentiel, pourtant, c'est de chercher en toute chose la volonté de Dieu et d'être docile aux suggestions de l'Esprit. La plupart du temps, la volonté de Dieu se manifeste dans les événements ordinaires. C'est les événements qui sont les maîtres que Dieu nous donne, disait Pascal, dont je vais vous parler bientôt, Blaise Pascal. Et souvent, en effet, la volonté de Dieu se manifeste dans la maladie, les échecs, les incompréhensions. Il est au cru de ça et se manifeste dans sa bonté. C'est alors que nous mesurons notre faiblesse. Tout ce qu'il y a de précaire en nous, cet aveu de notre néant devant Dieu, c'est notre vraie grandeur. Car elle génère en nous une confiance éperdue en lui et en sa puissance. Et puis il y a l'amour du prochain, qui reste le plus grand test de notre amour de Dieu. Si on n'aime pas notre prochain, on n'est pas des saints. Car le saint, comme le Christ, est un être de tendresse, de compassion, disons comme Mère Teresa, mais comme tant d'autres, des milliers, des milliers, des milliers d'autres. Il faut crier du fond du cœur, « Seigneur, je veux devenir un saint. Ah, Jésus, Jésus, prends-moi! Prends-moi! Je suis fatigué d'être moi-même, j'en ai marre. Prends-moi! Envoie-moi ton esprit.